Il est 5h.
C'est pour être assis au bureau avec un masque et faire le même boulot qu'à la maison, bah, j'en vois pas l'intérêt.
À la veille d'une nouvelle étape de déconfinement et d'un peu moins de télétravail, certains salariés regrettent déjà leur organisation à la maison entre leur cocon familial et une plus grande productivité. Les éoliennes, les horaires de train, les compteurs Linky, tous les irritants ou les tracas du quotidien des Français, c'est aussi pour capter ces signaux faibles qu'Emmanuel Macron a repris son bâton de pèlerin. Nouvelle étape aujourd'hui dans la Drôme. Et puis loin de ce genre de soucis, l'entrepreneur devenu milliardaire Jeff Bezos est en passe de faire démarrer le tourisme spatial, montant lui-même à bord d'une capsule à 100 km d'altitude, et ce dès le mois prochain.
À suivre, votre journal des sports et notre revue de presse du jour. Et puis on sera à Grenoble pour les doigts dans l'assiette avec notre maître chocolatier confiseur Thierry Court. Très bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La nouvelle étape demain du déconfinement et tous ces lieux qui vont reprendre leur activité. La liste est longue comme une file d'attente de montagnes russes. Les parcs d'attractions donc, les salles de sport, les bowling, les casinos, les salons et les foires. Les salles de restaurants aussi bien sûr. Et ce 9 juin verra également un assouplissement du télétravail. Le ministère ne recommande plus que 3 jours à distance par semaine.
Et on va le voir avec ce témoignage recueilli par Maximilien Carlier. Tout le monde ne se réjouit pas des retrouvailles avec les collègues.
Moi, clairement, je serais très très déçu qu'ils nous imposent de retourner à 100% sur site, clairement. Ouais. Et si c'était le cas, je pense que j'envisagerais de chercher ailleurs.
Mathias, 36 ans, informaticien, télétravaille depuis plus d'un an maintenant. Hors de question pour lui de retourner en open space.
Si c'est pour être assis au bureau avec un masque et faire le même boulot qu'à la maison, bah, j'en vois pas l'intérêt.
Car il a l'habitude de travailler chez lui désormais, seul, sans être dérangé, pas comme au bureau.
Le matin, les gens arrivent, ils te disent bonjour. Entre 7h30 et 9h30, t'es coupé toutes les 5 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Bon, c'était pas quelque chose que j'appréciais spécialement.
Et même s'il n'a rien contre ses collègues avec qui il échange à distance, Mathias préfère la tranquillité, il se décrit comme assez solitaire. Les avantages du télétravail, il en voit surtout un.
De pas avoir de route le matin, bah, ça fait gagner énormément de temps parce que, bah, comme tout le monde le sait, la métropole lilloise le matin, c'est complètement bouché.
Une heure de trajet en moins, donc moins de stress, des horaires un peu modulables, plus de temps aussi par exemple pour s'occuper de la maison, voir son fils, bref. Ce salarié comprend ceux qui désirent retourner en présentiel, mais il espère surtout que son choix de poursuivre le télétravail sera respecté par son employeur. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Lui est clairement retourné au contact. Emmanuel Macron dans la Drôme aujourd'hui. Deuxième étape de son Tour de France après le Lot la semaine dernière. Le président disait vouloir prendre le pouls du pays. Jean-Rémy Baudeau, le but de ce périple est en réalité plus élaboré, plus stratégique que cela.
Oui, car aller sur le terrain ne suffit pas. Souvenez-vous de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Novembre 2018, à l'époque, il rencontre des milliers de Français sur les routes pendant une semaine et ne perçoit pas la colère des Gilets jaunes qui éclatera 2 semaines plus tard. Ce Tour de France, c'est donc retrouver la réalité actuelle du pays, théorise un conseiller. Mais en coulisses, l'Élysée travaille surtout à repérer les signaux faibles, ces colères qui peuvent s'agréger et devenir une menace politique. Les compteurs Linky, les cantines scolaires, les horaires de train, autant de sujets de la vie quotidienne comme autant d'irritants. Les éoliennes, ceux qui n'ont que le paysage pour patrimoine, ils ne les acceptent pas, cite en exemple un proche du président. Emmanuel Macron et ses équipes notent donc tous les sujets lors des réunions avec les élus comme lors des bains de foule. Un double enjeu pour le chef de l'État, éviter le piège d'une fronde populaire ou sociale pour sa dernière année de quinquennat et nourrir son futur programme en tentant de répondre à ses colères.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
C'est une étude qui confirme le profond malaise des policiers. La Mutuelle Générale des Forces de Sécurité a interrogé plus de 6000 fonctionnaires. Résultat, un policier sur 4 a déjà eu des pensées suicidaires ou entendu ses collègues en exprimer.
Malaise particulièrement présent chez les jeunes policiers, comme celui que nous allons entendre, âgé de 28 ans et qui a préféré garder l'anonymat sur ce sujet tabou dans la police.
Ça faisait partie des issues possibles au point d'y réfléchir avec l'arme posée sur la table basse, à se demander si c'était pas en fait la meilleure solution pour arrêter cette spirale en fait. Au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas de soutien, ça enfonce même dès que possible. Et le seul truc qui les intéresse, c'est le chiffre qu'on va ramener. Il faut faire tant d'interpels, il faut faire tant de PV. Certains commissaires, certains officiers attendent qu'on soit des robots, et quand on ne l'est pas, ça va être des sous-entendus comme quoi on ne travaille pas bien, comme quoi on n'est pas un bon fonctionnaire. On se demande si on est vraiment utile.
Et ce malaise, vous en avez parlé autour de vous ?
Alors non, moi j'en ai parlé à personne. Personne n'a été au courant. Déjà, en parler aux collègues, c'est montrer une forme de faiblesse. C'est-à-dire, voilà, je suis pas, j'ai pas les épaules pour encaisser staff. En parler à la hiérarchie, c'était même pas la peine. Qu'on a aussi cette peur d'être désarmé, en fait. Pendant un certain temps, ils peuvent en fait nous saisir notre arme. Et du coup, je pourrais plus aller sur le terrain, je pourrais plus faire ce pour quoi je suis rentré, en fait. Un flic désarmé, c'est pas un flic, en fait.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Roman Hoquet. Précisons que ce policier va mieux grâce à une consultation chez une psychologue externe à la police. À l'étranger, 224 arrestations en Australie et des centaines d'autres hors du pays. Gigantesque coup de filet contre le crime organisé. Opération rendue possible après le décodage de milliers de communications chiffrées sur l'application Anom, qui était utilisée par des réseaux de trafiquants mais que le FBI avait réussi à craquer.
Il est 5h06 sur Europe 1 ce mardi et la journée mondiale de l'océan et à quelques semaines des vacances, on va regarder d'un petit peu plus près ce matin l'eau dans laquelle nous nous baignons.
Elle est officiellement recensée comme d'excellente qualité dans 79% des sites de baignade en France. Pourtant, Virginie Salmen, 50 associations autour de Surfrider Foundation réclament de revoir complètement la façon dont sont faites ces analyses.
Oui, sur une plage, l'eau de la zone de baignade est prélevée une à deux fois par semaine en moyenne pendant tout l'été pour être testée. Le problème, selon Sarah Hatimi, chef de projet qualité de l'eau et santé chez Surfrider, c'est qu'on ne recherche ni les polluants, ni les algues, ni les déchets plastiques pour évaluer la qualité de l'eau.
On fait des analyses uniquement bactériologiques, donc les deux seuls paramètres qui sont étudiés. Ces deux bactéries. Ce qui se passe, c'est qu'on peut aujourd'hui avoir une plage qui est jonchée de déchets sur laquelle il y a la présence d'algues qui sont parfois toxiques, éventuellement aussi des hydrocarbures présents. Et en fait, comme les deux bactéries qui sont recherchées ne sont pas présentes, le classement va pouvoir quand même être excellent.
Plus de 50 ONG ont déposé il y a quelques jours à la Commission européenne une demande de révision de la directive de 2006 qui encadre la surveillance de la qualité des eaux de baignade partout en Europe. Elle réclame des mesures d'émission microplastiques, des résidus de pesticides ou encore d'engrais.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et on revient sur les menaces qui pèsent sur les océans, réchauffement, acidification, les solutions aussi à notre portée avec mon invité en cette journée mondiale des océans, le directeur du Centre d'études de la mer. Rendez-vous à 5h40.
Un espoir scientifique aux États-Unis. Les autorités sanitaires permettent la commercialisation d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer. C'est une première depuis 2003. Il s'appelle Aduhelm. Il a la particularité de s'attaquer au mécanisme même de la maladie et non pas à ses symptômes. Ce produit sera destiné à des patients au stade les plus précoces de la maladie.
Enfin, cela fait des années qu'on parle à François Geffrier de tourisme spatial et ça y est, premier départ, c'est pour le mois prochain.
Oui, c'est sans doute la forme de tourisme la plus exotique et la plus coûteuse, mais ça fait rêver et le patron fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, sera son propre passager pour le vol de sa société spatiale Blue Origin.
Jamais mieux servi que par soi-même.
Exactement. Décollage fixé au 20 juillet, dit-il. Au passage, il devance d'autres milliardaires qui ont la tête dans les étoiles, Elon Musk, patron de SpaceX, et Richard Branson du groupe Virgin. Lord d'Autriche, concrètement, en quoi va consister cette première excursion de loisirs dans l'espace ?
Alors, ce n'est pas un voyage en orbite autour de la Terre, mais les passagers pourront flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Ils seront dans une capsule qui montera à 100 km d'altitude. C'est autour de 100 km qu'on établit la frontière de l'espace. Les passagers seront à ce moment-là en apesanteur, avec une vue spectaculaire sur la Terre. Il y aura à bord Jeff Bezos, son frère, et une troisième place a été mise aux enchères et a atteint pour l'instant 2 800 000 dollars. Après quelques minutes en apesanteur, la capsule commencera sa descente vers la Terre en chute libre, freinée par trois grands parachutes ensuite et des rétrofusées pour finalement atterrir dans un désert du Texas. Il y a quand même une inconnue, la fusée de Jeff Bezos a réussi une quinzaine de tests jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre, mais elle n'a encore jamais volé avec des humains à bord.
Lord d'Autriche.
Dans le journal de François Geffrier, merci François, vous avez pris votre billet pour le tourisme spatial pour le 20
juillet. 3 millions de dollars, moi je vais en chérir.
Bon. C'est noté. Merci beaucoup François, il est 5h09. Place au journal des sports avec vous Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et on démarre avec un rouleau compresseur nommé Nadal.
Oui, qui a eu maille à partir au premier set hier face au jeune Italien Sinner avant de remporter 8 jeux d'affilée. Le score, on va l'entendre, c'était hier en début de soirée sur le court Philippe Châtrier.
Nadal, 3 manches 0, 7-5, 6-3.
Toujours incroyable de jouer ici. Je crois que jouer avec un joueur très bon, avec un grand futur.
Mesdames et messieurs,
merci beaucoup.
Victorieux à 13 reprises ici à Roland-Garros, l'Espagnol Raphaël Nadal.
Qui met un petit 6-0 dans le troisième set en 20 minutes de jeu. À peine en quart de finale, il va rencontrer Diego Schwartzmann, qui était demi-finaliste ici même à Paris l'année dernière. Novak Djokovic lui a rencontré quelques difficultés également, et lui aussi face à un jeune Italien, Muzzetti, qui lui a pris les deux premiers sets, mais victoire finale du Serbe.
Et les premiers quarts de finale à Roland-Garros débutent dès ce soir.
Tsitsipas face à Medvedev, le grec, et son jeu agressif face au russe, un peu plus tendre sur terre battue, mais adopté par le public français. Notre consultant Cédric Pioline met d'ailleurs une petite piécette sur le russe.
Il est adorable, il est génial, j'adore, j'aime bien aussi comment il joue, mais il a parfois l'esprit qui, comme on dit, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend. Et l'année passée, il avait plutôt bien joué sur terre battue, sauf à Roland-Garros, puisque rappelons-le, c'est la première fois qu'il passe un tour ici à Paris. Mais c'est vrai que voilà, c'est dans son tempérament, donc il n'y a pas de raison qu'il joue mal sur terre battue. Il est en train vraiment de nous le montrer pour cette quinzaine.
Cédric Pioline avec Corinne Boulou, ce match entre le grec et le russe aura lieu à 21h, c'est le match du soir.
Et puis à 21h, il y a du football aussi ce soir, les Naïk Monnier et les Bleus retrouvent leur public.
Deuxième match de préparation des Bleus contre la Bulgarie au Stade de France et effectivement devant 5000 personnes qui ont toutes été invitées, parmi lesquelles on va retrouver des soignants. Les Bleus ont une dérogation puisque la troisième étape du déconfinement n'a lieu que demain et c'est évidemment un match à suivre en direct sur Europe 1.
On passe au cyclisme. À présent, l'équipe de France de VTT pour les Jeux Olympiques est constituée.
Oui, elle a une belle allure. Vous allez entendre le palmarès, il y a de quoi être impressionné. Christophe Manin, le DTN de la Fédération Française de Cyclisme, a toutes les raisons d'être optimiste.
On y va avec beaucoup de confiance puisqu'on a la numéro 1 mondiale, Loana Lecomte, qui est championne du monde espoir, championne d'Europe espoir. On a Pauline Ferrand-Prévot, double championne du monde 2019-2020. Et puis chez les garçons, donc on a le champion du monde en titre et puis Victor Koretsky qui gagne une Coupe du Monde. C'était pas arrivé, les Français n'avaient pas gagné depuis pas mal d'années. Voilà, on va vraiment chez les filles et chez les garçons pour être sur le podium.
Christophe Manin de la Fédération Française de Cyclisme avec Axel May. Puis à propos des JO, toujours plusieurs médias américains annoncent ce matin que LeBron James et Anthony Davis ne feront pas partie de la Dream Team de basket. Les deux joueurs qui ont passé les 35 ans se sont blessés en NBA.
Merci beaucoup Lénaïk pour ce journal des sports. On vous retrouve tout à l'heure. À 5h12, place aux courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 709 Dojo. Voilà un cheval sur lequel on peut compter dans cette catégorie des handicaps. Jamais plus loin que quatrième en 3 tentatives à ce niveau depuis le début de l'année, je sais qu'il a été préparé avec minutie par son entraîneur Pascal Barry en vue de cet objectif. Absent de la compétition depuis le 18 avril, il va se présenter cet après-midi avec de la fraîcheur, fin prêt à fournir sa meilleure valeur. Alors notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1, dans la 7e course, le numéro 9, Dojo.
Merci beaucoup, le pari gagnant Cyril, signé Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
5h13, l'heure d'ouvrir dans un instant notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse. Omblin Roche, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin ?
L'abandon est à terme une condamnation à mort, ce sont les mots du président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne. L'association lance une nouvelle campagne de sensibilisation avec un petit film humoristique et étonnant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à 5h15, deuxième étape aujourd'hui du Tour de France d'Emmanuel Macron. Le président se rend dans la Drôme auprès des restaurateurs à la veille d'une nouvelle étape du déconfinement. 4 morts dans une attaque à la voiture Bélier au Canada. Elle visait délibérément des personnes musulmanes selon la police, qui parle d'un acte prémédité et planifié. Le conducteur du pick-up, un homme de 20 ans, a pu être arrêté. Aux États-Unis, un mois après le début de la pénurie d'essence sur la côte Est du fait d'une cyberattaque contre des oléoducs, le FBI a récupéré 2 300 000 dollars, soit la moitié de la rançon qui avait été versée aux pirates informatiques. Et puis en football, deuxième et dernier match de préparation des Bleus à l'Euro ce soir à 21h10 face à la Bulgarie. C'est un petit événement au-delà du côté sportif puisque 5000 personnes seront présentes par dérogation dans les tribunes du Stade de France.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux. Il y a 2 semaines du bac, comment réussir le grand oral ? Conseil à la une d'aujourd'hui en France qui nous rappelle que cette nouvelle épreuve va peser 10% de la note finale. Conseil de pro, multiplier les entraînements dans la dernière ligne droite et arriver décontracté, nous dit aujourd'hui en France. Décontracté, mais pas trop quand même. Une fois le précieux sésame en poche, Libération ne vous conseille pas franchement de vous orienter vers le métier d'avocat d'affaires. Enquête à la une de Libé dans l'enfer d'un cabinet d'affaires. Deux anciens avocats du cabinet Racine racontent, je cite, un système dévastateur fait de surexploitation, de pression et où l'on préfère, écrit Libération, le droit des affaires au droit du travail. Le sort des migrants est aussi à la une de vos journaux ce matin. La Croix s'alarme sur la situation aux îles Canaries, débordées depuis l'automne, quand West France nous emmène à Lampedusa en Italie, où les arrivées continuent de se multiplier au mois de mai. 500 millions pour les vallées, ça c'est le montant des aides aux sinistrés de la tempête Alex, en une de Nice matin, qui revient sur cette annonce d'Emmanuel Macron aux élus locaux qu'il a réunis en visioconférence hier. 500 millions d'euros pour les communes, 8 mois après les orages dévastateurs. La deuxième phase du déconfinement demain fait aussi de nombreux grands titres ce matin. J-1 avant la permission de 23 heures se réjouit la Nouvelle République en Touraine, alors qu'à Lyon, le progrès s'est glissé dans les derniers préparatifs des restaurateurs étoilés. Enfin, un retour très attendu. N'Golo Kanté retrouve l'équipe de France pour le dernier match de préparation avant l'Euro ce soir contre la Bulgarie. Le facteur K titre l'équipe qui lui consacre un grand portrait en première page. Dernière répétition avec Kanté, se régale d'avance le Parisien. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Amblin Roche, on commence donc avec des histoires animalières, oui, avec vous ce matin.
C'est un sujet dont nous parlons chaque année à quelques jours des grandes vacances sur Europe 1 et ailleurs. Hein, l'abandon des animaux de compagnie. Quand arrive l'été, le Parisien aujourd'hui en France présente la nouvelle campagne de la SPA pour sensibiliser les propriétaires. Chaque année, dans ses 62 centres, la SPA pousse les murs et recueille plus de 45 000 animaux. 45 000 par an. Elle en reçoit 15 000 pendant la période estivale. Et les deux tiers sont des chats.
On pense souvent que c'est des chiens, bêtement, non, qu'on laisse au bord de l'autoroute avec
une
laisse.
Essentiellement des chats. Car non, un chat ne peut pas se débrouiller seul dans la nature.
Non.
Et oui, il s'attache à son maître. La SPA lutte contre ses idées reçues. L'association axe donc cette année ses messages de prévention sur les félins et opte pour un film humoristique.
Moi, j'y crois pas. Ils partent en vacances, ils vont m'abandonner comme l'autre famille.
Voilà, un petit film d'animation avec les voix de Tarek Boudali, Ahmed Silla, Alison Wheeler et Kian Kojandi diffusés à la télé ou au ciné. Et le petit chat Grisou passe des vacances à la campagne en famille. Finalement,
ouais,
ça se finit bien ce film, car il existe des solutions contre l'abandon des cat-sitters aussi, par exemple, qui en plus
les cat-sitters, comme les baby-sitters.
Voilà, qui pourront en plus arroser vos plantes.
C'est vrai, qui font plant-sitter aussi.
Exactement. La SPA en a assez d'entendre les mêmes excuses et lance sa campagne de prévention contre l'abandon. Et attention, ici, on parle des animaux hébergés par l'association, car beaucoup se retrouvent à la fourrière. 40% des chats sont euthanasiés sans raison médicale, et les chatons n'ont presque aucune chance de s'en sortir. Voilà, c'est dans Le Parisien, aujourd'hui en France, cette nouvelle campagne.
Et donc, voilà, ça met fin aux idées reçues. Un chat, si on l'abandonne, il ne va pas arriver à se débrouiller tout seul dans la nature. Et ça rend allergique notre ami Martin Lange, qui éternue. Merci, Ombline.
Il risque surtout de mourir. Voilà.
Oui. Donc, c'est un vrai problème. 15 000 sur les 45 000 animaux recueillis chaque année par la SPA, 15 000 l'été. Donc, on n'abandonne pas les chats, les chiens, ni tout autre animal d'ailleurs.
Bien sûr.
On parle souvent, Ombline, Martin, de la toute-puissance des GAFA.
Oui.
Eh bien, sachez que Google vient d'être lourdement condamné en France. Et surtout que pour la première fois, Google admet une faute et va payer 220 millions d'euros. 220 millions d'euros d'amende infligée par l'autorité française de la concurrence pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. C'est le journal Les Echos qui nous détaille cette affaire ce matin. Google, en effet, est jugé parti dans l'attribution des cases de pub que vous voyez sur les sites internet quand vous allez sur Google, justement. D'un côté, il gère les principaux serveur du marché, pour résumer la salle de vente aux enchères, hein, où les propriétaires de sites internet vendent leurs cases de publicité au plus offrant. Et de l'autre, Google participe lui-même à ces enchères via une autre de ses filiales qui remporte bien plus souvent la mise que ses concurrents. Et pour cause, la première branche, le commissaire-priseur Google, indiquait jusqu'ici à les deuxièmes quel prix étaient prêts à mettre ses concurrents, donc c'était plus facile de les battre. Et comme par hasard, au volet technique, on va dire, les échanges entre la salle de vente aux enchères Google et les annonceurs qui enchérissent fonctionnaient beaucoup mieux avec le serveur publicitaire Google qu'avec les serveurs concurrents. Google a reconnu les faits, c'est une première et s'engage donc à payer 220 millions et à mettre fin à ses pratiques. C'est une plainte de plusieurs groupes de médias il y a 2 ans qui avait permis de lever le lièvre, notamment La Voix du Nord et Le Figaro. Alors 220 millions, vous allez me dire, c'est rien évidemment comparé aux 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires de la firme au quatrième trimestre l'an passé. Mais c'est un début. Cette sanction en France ouvre la voie à d'autres procédures judiciaires ailleurs dans le monde. Google lourdement sanctionné en France dans le secteur de la pub. C'est un décryptage à lire dans Les Échos ce matin. Martin Lange, ça va mieux ?
Ça va un peu mieux. Ouais.
On
Merci.
Termine avec vous.
Oui, avec un maillot de foot qui pourrait relancer un conflit international dont on n'entend plus vraiment parler. Oui. Il y a 2 jours, la Fédération ukrainienne de foot a dévoilé les maillots de l'équipe nationale pour l'Euro qui débute vendredi. Mmh. Et ces maillots n'ont pas du tout plu à la Russie, hein, l'omnipotent voisin qui, depuis la révolution du Maïdan, vous en souvenez peut-être Théo, hein, c'était même, il y a maintenant 7 ans, arme et finance une révolte pro-russe dans l'est de l'Ukraine.
Et alors qu'est-ce qui ne plaît pas à Moscou sur ces maillots, Martin ?
Alors d'abord, ils arborent une carte de l'Ukraine d'avant 2014, c'est-à-dire qu'elle inclut la Crimée, une presqu'île annexée par Moscou, ainsi que les régions séparatistes de Louhansk et de Donetsk, dont le Kremlin reconnaît l'autonomie. C'est cette carte qui a provoqué la colère des Russes. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a même réagi sur son compte Facebook. Pour elle, imaginer la Crimée comme faisant partie de l'Ukraine est une liberté artistique déchirante.
Les Nations Unies qui la reconnaissent toujours intégrée à l'Ukraine apprécieront. En plus de cette carte, Martin, les Russes ont trouvé d'autres défauts aussi à cette nouvelle tenue.
Oui, sur ces maillots figurent aussi des slogans « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros », des slogans patriotiques qui ont accompagné la révolte du Maïdan, mais des slogans qui ne sont pas du tout du goût des Russes. Selon eux, cet appel est un chant ultranationaliste utilisé par les groupes les moins fréquentables de la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, notamment des groupes qui auraient coopéré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve là une des accusations préférées de Moscou visant le mouvement national ukrainien. La Russie et l'Ukraine, qui ne se sont pas affrontés sur un terrain de foot depuis la crise de 2014, participent toutes les deux à l'Euro, mais tout a été fait pour qu'elles ne se rencontrent pas avant un hypothétique quart de finale. Le maillot de l'Ukraine pour l'Euro ne plaît pas à la Russie, c'est à lire sur le Huffington Post.
Et on verra donc s'il y a affrontement sur le terrain ou pas. Ça fait craindre pour, du côté des supporters quand même, ça laisse pas totalement serein. Merci Ambine, merci Martin pour ce pressing. Merci. Dans un instant, direction Grenoble pour les doigts dans l'assiette.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes à Grenoble donc ce matin pour les doigts dans l'assiette où nous attend notre maître chocolatier confiseur. Bonjour Thierry Court.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Comment ça va ce matin ?
Ben ça va très bien, merci.
On a envie de chocolat avec vous. Alors d'accord, Pâques c'est passé, mais qu'est-ce que vous nous conseillez en ce moment ?
Ah ben le chocolat, il n'y a pas de saison, hein. Il faut pouvoir en avoir toujours sous la main.
Ça, c'est sûr.
Une valeur refuge et puis qui a bien soutenu le moral des Français, je pense.
Avec le magnésium, hein, c'est ça ?
Oui, la...
Alors, on vous entend pas très bien, Thierry Court. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez possibilité de vous décaler un petit peu ? On a une petite coupure. Je vous demandais, oui, qu'est-ce que vous nous conseillez peut-être en ce moment ? Qu'est-ce qu'on a en boutique ?
Ah, bah alors, ce chocolat, là ça va être toujours l'occasion de découvrir des origines, des grands crus. Il faut tester pour découvrir quelle origine on préfère.
Ouais. Laquelle a votre préférence peut-être ?
Alors moi j'ai la chance de travailler le chocolat d'un ami.
Ouais.
Qui s'appelle Serge Ngassa et qui est propriétaire de ses plantations au Cameroun.
D'accord.
Et du coup il transforme lui-même son propre cacao. Ça, c'est une richesse déjà, parce que du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça permet aux gens qui récoltent le cacao et tout de vivre correctement de leur travail.
Voilà, c'est du commerce équitable.
Voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les plantations et tout. Et puis à l'arrivée, ben, on a un très bon cacao. Ça, c'est quand même la matière première, la matière de base du chocolat. Et il le transforme, ce cacao, à côté d'Annecy, donc pas très loin de chez moi en plus.
Ça fait des circuits courts.
Dans un très bon chocolat. Et puis bon, j'ai eu la chance, en plus, d'aller visiter ces plantations, de voir cet arbre magnifique qu'est le cacaoyer sur place.
Ouais.
Et quand on voit ce petit arbre avec ses fruits très généreux, avec des couleurs très très belles, du vert, du orange, du rouge, du violet... voilà, on ressent la magie du cacao. Quoi.
Voilà, le cacao en commerce équitable et quasiment en circuit court. Je redonne l'adresse à votre magasin Les Petits Bonheurs, rue de la Poste à Grenoble. Merci beaucoup Thierry Court. À bientôt.
Merci
dans
à
les
vous.
Dans l'assiette.
Bonne journée.
À vous aussi.
adolescent, quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Respire l'instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre.
Voilà, extrait du dernier single de Gaëtan Roussel, Je me jette à ton cou. Gaëtan Roussel sur Europe 1. 5h29, la météo, Laurent Cabrol, encore du beau temps aujourd'hui.
Oui, c'est une journée ensoleillée, donc partout en France. Il y a quelques nuances ce matin près des côtes de la Manche, un peu comme hier. Hein. Nous avons des brumes et des brouillards, mais enfin, ils vont vite se dissiper. Il fera très beau aussi dans toutes ces régions, Bretagne, Normandie, Nord-Picardie. Et puis, nous aurons du soleil pratiquement partout. Alors attention aux orages, quand même, ils sont encore présents, ils seront encore présents cet après-midi sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes dans son ensemble. Et la Côte d'Azur et la Corse, où nous aurons là des orages parfois violents, donc soyez vigilants. Les températures, alors les températures, c'est quand même une note importante, dans la mesure où aujourd'hui elles seront un petit peu plus chaudes qu'hier, c'est-à-dire nous gagnons 1 degré, entre 20 et 31 degrés, 27 à Paris, 29 à Marseille par exemple, 31 à Perpignan, pour les températures les plus fraîches, Caen, Saint-Brieuc, Dijon, Besançon, entre 21 et 22. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'ensemble, nous allons vers des températures de plus en plus chaudes au fil des jours et que nous allons vraiment, vraiment avoir chaud en fin de semaine. Allez, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse sérieuse. On en reparlera tout à l'heure.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue sur Europe 1. Marion Calais s'installe pour un nouveau journal. Bonjour Marion.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
C'est une excellente nouvelle parce que cela démontre qu'il y a une recherche active pour trouver des traitements contre la maladie d'Alzheimer.
Une première en quasiment 20 ans, la mise sur le marché aux États-Unis d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Sa particularité, il s'attaque aux causes de la maladie et pas seulement aux symptômes. La bataille du tourisme est lancée avant la France demain. L'Italie, l'Espagne, la Grèce à l'offensive pour relancer ce secteur crucial pour leur économie. Un dernier test avant l'Euro, l'équipe de France de foot opposée ce soir à la Bulgarie.
Dans 10 minutes, quelle solution pour sauver les océans? C'est la journée mondiale des océans aujourd'hui. Ils fournissent, on le sait peu, plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer, est avec nous à 5h40. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une lueur d'espoir pour des millions de malades à travers le monde. L'Agence américaine des médicaments vient d'autoriser un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer et c'est à plusieurs titres que la nouvelle suscite l'intérêt.
D'abord parce que c'est la première fois depuis près de 20 ans qu'un nouveau médicament contre Alzheimer est lancé et ensuite parce que le principe même du traitement est inédit. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. L'idée là, c'est de s'attaquer au mécanisme même de la maladie.
Voilà, ce traitement produit par l'entreprise Biogen est une biothérapie. Autrement dit, ce sont des anticorps qui viennent s'attaquer à la fameuse protéine amyloïde, une protéine qui, chez les malades, a tendance à s'accumuler dans le cerveau et à en gêner le fonctionnement. Ce traitement s'administre sous forme de perfusion, explique le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer.
C'est une excellente nouvelle parce que cela démontre qu'il y a une recherche active pour trouver des traitements contre la maladie d'Alzheimer. Certains essais cliniques réalisés avec ce nouveau médicament ont montré une diminution du déclin cognitif de 23%, ce qui semble améliorer la qualité de vie des patients. Mais il s'agit de patients qui sont à des stades extrêmement précoce du développement de la maladie d'Alzheimer. Donc ce n'est pas pour l'ensemble des patients atteints de maladie d'Alzheimer.
Et les autorités sanitaires américaines restent cependant prudentes. Pour valider cette mise sur le marché à long terme, elles demandent que d'autres essais cliniques confirment l'amélioration de l'état des patients. Et en France, il faudra de toute façon attendre pour bénéficier de ce traitement puisque la demande d'autorisation est toujours en cours d'examen à l'Agence européenne du médicament.
Précision signée Anne Le Gall. Un vaste coup de filet international dans le milieu du crime organisé, des arrestations en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, aux États-Unis, grâce à l'infiltration par la police d'une application utilisée par les criminels.
Le tourisme à la relance. Demain, la France rouvrira ses frontières aux étrangers vaccinés, mais elle aura de la concurrence.
Oui, l'enjeu est de taille pour de nombreux pays, notamment chez nos voisins qui font désormais de la sécurité sanitaire un argument, Carole Ferry.
Oui, l'Espagne, par exemple, a annoncé ouvrir grand ses frontières à toutes les personnes vaccinées, Baléares et Canaries compris. Le pays ne veut pas rater sa saison estivale. L'an dernier, il s'était montré très prudent et bien cette année, il veut reconquérir sa place de deuxième destination la plus prisée au monde. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, un test antigénique suffit désormais, moins cher que le PCR. Un argument de plus pour séduire les ressortissants des pays dans lesquels les tests ne sont pas gratuits. La Grèce compte bien également redynamiser son économie touristique et pour cela, elle veut rassurer avec le concept d'île sans Covid. Une quarantaine d'îles grecques dans lesquelles tous les habitants ont été vaccinés. C'est toutefois toujours en cours dans les plus prisés comme Mykonos, Santorin ou Paros. Une idée reprise par l'Italie, tous les habitants de l'île de Procida dans la baie de Naples ont été vaccinés. Capri veut faire de même. L'Italie qui veut également séduire avec ses TGV Covid-free, des trains qui n'acceptent que des voyageurs munis d'un test négatif.
Et avec la réouverture aux touristes demain en France, nouvelle étape du déconfinement, jauge élargie à 65% dans les lieux culturels, réouverture partielle des espaces en salle pour les cafés et restaurants. Sujet d'ailleurs, la réouverture des cafés et restaurants au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron dans la Drôme, le chef de l'État attendu notamment dans un lycée hôtelier.
Et on en reparle avec mon invité à 6h40. Il est 5h34 sur Europe 1. Cela fait deux mois jour pour jour qu'il a été enlevé au Mali. Manifestation ce matin à Paris pour demander la libération du journaliste Olivier Dubois.
Qui travaille notamment pour Libération et qui a été kidnappé alors qu'il devait réaliser l'interview d'un chef djihadiste dans la ville de Gao. Avec cette manifestation, ses proches espèrent se faire entendre de lui et des autorités. Marc de Bonny est un ami du journaliste kidnappé.
Si j'avais un message qui devait lui parvenir, bah, ce serait un message de courage, de soutien, qu'il sache bien sûr qu'on est là pour lui, on ne l'oublie pas et on ne lâchera rien jusqu'à ce qu'il revienne. Derrière, c'est aussi quel modèle de société nous voulons pour demain qui se pose comme question. Il est important que des journalistes chevronnés continuent de traiter ces sujets, qu'on ne se laisse pas écraser par la peur, par l'inquiétude. On commence à sortir un petit peu du coup de massue de la nouvelle qui était difficile, bien sûr, à découvrir. On aborde certainement un temps un peu plus long, mais avec beaucoup d'espoir et confiance à la fois dans les autorités et dans les capacités d'Olivier à traverser cette épreuve. Je suis entièrement tendu vers l'idée de sa libération et pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse.
Un proche du journaliste enlevé au Mali, il répondait pour Europe 1 à Caroline Baudry, rassemblement prévu à 11h30, place de la République, donc à Paris.
Enfin, c'est le dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro de football. Rendez-vous ce soir à partir de 21h10 face à la Bulgarie.
Dernière occasion de travailler grandeur nature le collectif, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, évidemment, la Bulgarie, engluée à la 71e place mondiale et non qualifiée pour l'Euro, n'a pas le pédigré de l'Allemagne que les Bleus affronteront le 15 juin à Munich. Mais après deux semaines de préparation sans nuages et un succès facile face au Pays de Galles, les Bleus ont encore besoin de peaufiner leurs réglages. S'imposer ce soir serait forcément bon pour la confiance, mais l'essentiel est ailleurs, prévient le capitaine Hugo Lloris.
L'objectif, il n'est pas de se jauger. L'objectif, c'est d'avoir du temps de jeu, c'est de trouver des repères que ce soit sur le plan individuel, mais surtout sur le plan collectif. C'est également confirmer toutes les bonnes choses qui ont été faites durant la semaine de préparation.
Et notamment confirmer la belle entente du trio offensif Mbappé, Griezmann, Benzema. L'attaquant du Real Madrid n'avait pas réussi à marquer à Nice contre le Pays de Galles et tentera de faire trembler les filets. Son concurrent en attaque, Olivier Giroud, qui a marqué 22 de ses 44 buts en bleu au Stade de France, pourrait jouer une partie du match. Enfin, N'Golo Kanté, ce milieu de terrain de poche qui sait tout faire, dit Hugo Lloris. devrait retrouver sa place de titulaire aux dépens de Corentin Tolisso.
Un match en public hein, devant 5000 personnes invitées, dont des soignants. Il y a eu une dérogation exceptionnelle avec Absolument. Un couvre-feu décalé à 23h, exceptionnellement pour ce match. Et ce match, ce sera donc à partir de 21h10.
Sur Europe 1, merci. C'était le journal de Marion Calais. Il est 5h37. L'heure de retrouver Thierry Léger pour le Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se disputera ce Quintet à handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 1 Jackson ayant déclaré forfait. Deux fois second, épreuve similaire depuis le début de l'année, Courking, le numéro 2, sera sans hésitation mon préféré. Visiblement en pleine possession de ses moyens et associé au crack jockey Christophe Soumillon avec lequel il a toujours fait l'arrivée, ces deux-là peuvent être fermement envisagés pour la victoire. On leur opposera les numéros 5, Shamsabad, très confirmé sur cet hippodrome de Saint-Cloud et qui reste sur toute une série de bonnes performances à ce niveau, 4 Carpio d'une régularité de métronome et 14 Media Storm pour lequel son entraîneur Simone Broghi n'a pas hésité à effectuer un long déplacement depuis le sud-est. Enfin les numéros 3 Louis, 10 Neishan, 15 Baden Rock et 11 Salossin sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic 2, 5, 4, 14, 3, 10, 15 et 11.
Merci Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr. Europe 1. Il est 5h38, nous sommes le mardi 8 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale des océans, à l'appel des Nations Unies, le grand bleu, maillon essentiel de la régulation de notre climat, de l'oxygène aussi qu'on respire et dont on ne prend pas assez soin. Bonjour Christian Bûcher.
Bonjour à tous.
Merci d'être notre premier invité ce matin. Vous êtes le directeur du Centre de la mer à l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de marine. Votre constat et vos raisons malgré tout d'être optimiste, on en parle dans un tout petit instant.
Théo Manval sur Europe 1.
Le directeur du Centre de la mer à l'Institut catholique de Paris est donc avec nous ce matin. Et je le disais, on le sait assez peu, Christian Bûcher, mais les océans produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons sur Terre.
Écoutez, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire sans l'océan, nous ne pourrions pas respirer. Ça semble curieux parce que on a un sentiment d'étouffement à la mer, mais c'est dire aussi que, vous savez, on sait depuis la fin des années 1990, c'est pas si vieux, que nous émanons de la mer. C'est-à-dire qu'on a découvert dans des sources hydrothermales, c'est-à-dire des points près des volcans immergés, de nouvelles formes de vie qui vivent pas comme nous humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, par oxygène, mais par chimiosynthèse. C'est-à-dire, si je devais un peu forcer le trait, le martien qu'on va chercher depuis des décades au fin fond de la galaxie, on sait qu'il existe et vivant sous la mer.
52% de l'oxygène donc que nous respirons aujourd'hui est produit par le plancton. C'est plus que toutes les forêts du monde. Et le constat est clair, hein, depuis de nombreuses années déjà, on est en train d'épuiser les océans.
C'est-à-dire que les océans, c'est véritablement la vie. Ces océans, vous savez, ils sont attaqués de différentes manières. Ils sont attaqués, bien sûr, tout le monde a en tête les continents de plastique. D'abord, il n'y en a pas un, il y en a 5 au dernier pointage. 2 dans l'océan Atlantique, 2 dans l'océan Pacifique, 1 dans l'océan Indien. Et si vous cherchez bien dans la Méditerranée, bah, vous allez en trouver un. Parce que dans toutes les mers, et à plus forte raison, les océans, vous avez des phénomènes de courant. Donc, qui vont emporter les particules fines, qui vont se grouper. Il y a bien sûr également, il faut tenir compte de tout ce qui est bétonisation du littoral. C'est une petite frange de l'océan. Mais il faut savoir que les poissons, les espèces marines ne se reproduisent pas toujours en pleine mer, mais souvent là où la photosynthèse joue à plein, c'est-à-dire sur les eaux littorales, les eaux bordières, celles-là même précisément que nous agressons. Et puis, je profite de votre antenne pour lancer un petit peu un cri, parce qu'on ne mesure pas. L'océan, c'est 52%, vous l'avez rappelé, de l'oxygène que nous consommons, mais il faut savoir qu'en machine inverse, nous lui faisons absorber à cet océan qui nous donne la vie, nos émissions de CO2. Les océans 30%. Absorbent plus de 30% de nos émissions de CO2. Et depuis le temps que nos océans absorbent ces émissions de CO2, ils s'acidifient. Et c'est l'acidification qui est la menace majeure qui pèse aujourd'hui sur les océans. On pense souvent aux coraux, on voit bien qu'ils blanchissent. Alors on se dit souvent, mais c'est l'impact du réchauffement climatique. Bah oui, mais c'est aussi le résultant de l'acidification des océans. On sait très bien qu'un peu d'acide sur la craie, c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage. Donc on voit qu'il y a des menaces dont on ne parle pas, qui sont même plus importantes. Alors chacun sait que tout ça, c'est un scandale écologique. Je dirais, il y a plus grand monde aujourd'hui qui va contester ça. Mais ce qu'on ne mesure pas, c'est que c'est un peu scier la branche sur laquelle nous sommes. C'est même assassiner la poule aux œufs d'or. Les microbiologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie marine. Alors vous comprenez que tuer cette vie qu'on ne connaît pas et dont nous aurons de plus en plus besoin pour notre santé, on est dans cette période un petit peu difficile. Figurez-vous qu'aujourd'hui, l'animal, la bestiole, à la limite, qui a l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine, c'est non pas un ver de terre, mais un ver de mer. Bon, ce qui permet aujourd'hui d'ailleurs les transports, des transferts d'organes permettant de conserver les organes 72 heures contre moins de 24 heures pour un sang classique. Donc on voit que, mais là je vous donne la santé, mais dans tous les compartiments du jeu, au niveau de l'énergie, il y a des énergies marines renouvelables, pour la santé, pour le bien-être, pour le tourisme. La mer contient la quasi-totalité des solutions, à condition que nous ne fassions pas sur elle ce que nous avons fait sur Terre, en sachant que nous sommes de plus en plus groupés autour de la mer. Imaginez qu'en 2025, c'est demain matin, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale d'une largeur de 75 km. Donc attention, comme le dit le grand Jacques Perrin, on n'aura pas d'océan de rechange.
Justement, face à ça, qu'est-ce qu'on fait, Christian Bûcher? Le constat de l'acidification, du réchauffement, de la perte d'espèces, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les océans en 2021?
Pour protéger les océans, il y a déjà une grande règle, c'est émettre moins de CO2. Où que nous soyons, nos émissions de CO2 finissent par être absorbées. Et heureusement pour nous, parce que très honnêtement, si la mer n'absorbait pas 30% de nos émissions de CO2, il y a longtemps que nous aurions une pédagogie du masque beaucoup plus poussée, parce qu'on aurait tous des problèmes respiratoires, etc. Donc la mer nous rend un service formidable en nous donnant l'oxygène, en absorbant nos émissions de CO2, mais c'est ça qui provoque l'acidification. Donc si nous voulons ne pas provoquer cette rupture d'équilibre qui est en passe de se produire, il faut de toute urgence limiter nos émissions de CO2, c'est-à-dire aller vite vers ce que la mer nous propose en termes d'énergie marine renouvelable, en sachant que d'ici 2050, c'est-à-dire en 29 ans, nous aurons 3 milliards de terriens en plus. C'est dire qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps. La mer nous permet de vivre, de survivre. Elle est même l'assurance vie de notre planète. Mais permettons-lui de continuer de faire ce job, c'est-à-dire stoppons le plus rapidement possible, limitons le plus rapidement possible nos émissions de CO2. C'est la priorité.
Et on la retient. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce constat, de ces solutions et de l'urgence à agir. Merci beaucoup Christian Bûcher, directeur du Centre de la Mer à l'Institut catholique de Paris. Je rappelle votre ouvrage « La grande histoire vue de la mer » aux éditions Le Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous en cette journée mondiale des océans. Bonne journée.
Très bonne journée à tous.
Europe 1.
À 5h46, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïque Monnier, où est-ce qu'on va ce matin?
Dans le Pas-de-Calais, on va découvrir des huiles essentielles qui viennent à la rescousse de ceux qui ont perdu l'odorat à cause du Covid.
A tout de suite.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à bientôt 6h10, c'est la vigilance dans les Landes face aux variants indiens du Covid. 31 cas détectés, essentiellement bénins. Les opérations de test vont être renforcées, mais la troisième étape du déconfinement demain n'est pas remise en cause. Ce mercredi qui rimera avec un décalage à 23h du couvre-feu et la réouverture des cafés et restaurants en intérieur. Une famille ciblée parce qu'elle était musulmane au Canada attaque à la voiture bélier hier dans la ville de London, dans le sud du pays. 4 personnes d'une même famille ont été tuées. Le suspect a été arrêté. Et puis 5000 spectateurs autorisés à assister au match des Bleus ce soir au Stade de France. Dernière rencontre avant le début de l'Euro vendredi. Un match amical face à la Bulgarie. Ce sera à suivre à partir de 21h10.
Écoutez Le Monde Changer avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Et direction donc Lénaïque Monnier, le Pas-de-Calais ce matin.
Oui, parce qu'on a pas mal parlé d'un de ces symptômes très dérangeants du Covid, la perte du goût et de l'odorat. Les scientifiques continuent de plancher sur les causes et sur les remèdes. On sait globalement que c'est réglé en 2 mois. Sauf qu'entre-temps, on ne sent plus le pain chaud qui sort du four, le parfum des fleurs de son jardin. Alors ce sont les aromathérapeutes qui se mettent en selle et qui proposent des stages de rééducation olfactive.
Alors, en quoi ça consiste?
Alors, on a des coffrets, comme celui de Camille, qui est originaire d'Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, donc, et de ses copines chimistes. On met à disposition des convalescents des petites fioles qui sentent le thym, la lavande, l'eucalyptus, la vanille, des senteurs prononcées, identifiables, et on renifle. C'est un protocole qui s'étend sur 12 semaines. Chaque jour, la personne sent des odeurs matin et soir et note l'évolution de son ressenti. L'idéal, eh bien, c'est de le faire avec 6 odeurs différentes.
Rééducation olfactive, donc, et on peut les faire soi-même ces petits packs, entre guillemets.
Oui, parce que les coffrets sont quand même abordables, hein, une 20aine d'euros, mais vous pouvez effectivement faire avec ce que vous avez dans vos placards, des épices, des grains de café, de la cannelle. Il faut des odeurs plutôt agréables et noter dans son petit carnet tout ce qu'on ressent. Évidemment, tout de même, si les symptômes persistent, il vaudra mieux consulter à terme.
Merci beaucoup Lénaïque. Vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France. bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Eh bien, c'est un nouveau cap de violence franchi dans le débat politique avec cette vidéo du youtubeur d'extrême droite Papacito.
Salut la commu. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est pare-balles. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean. Peut-être qu'ils seront démunis si il y a quelque chose de pas prévu qui se passe.
Il y a des chances. Hein.
Des chances. Dans les années prochaines.
Alors on le voit tirer avec une arme à feu hein, sur un mannequin qui porte un t-shirt « Je suis communiste ». Le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence, ironise le youtubeur, avant de larder de coups de couteau ce même mannequin.
Ouais, clairement, appel à la violence. On sait qui c'est ce Papacito ?
Oui, il s'appelle Hugo Gilles Jiménez, hein, très apprécié par l'extrême droite. Il a ses entrées dans plusieurs médias comme Sud Radio ou Valeurs Actuelles. Il y a quelques jours, Éric Zemmour le désignait même comme son ami. Hein. Une vidéo exhumée sur les réseaux depuis. Et son lieu d'expression favori, eh bien, c'est YouTube, hein, plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne.
Et on imagine que cette vidéo a beaucoup fait réagir. Et
évidemment, hein, d'abord du côté des Insoumis, hein, une vidéo nauséabonde, un véritable appel au meurtre. Le fasciste Papacito appelle à s'armer pour tuer des Insoumis sans aucune réaction. S'alarme le député Loïc Prud'homme, rejoint par Clémentine Autain, un proche de Zemmour, hein, met en scène le meurtre d'opposants politiques. La sonnette d'alarme n'en finit plus de sonner. Certains militants s'inquiètent, eux, pour leur sécurité, à l'image de Julien. Actuellement, je travaille dans une permanence LFI et j'ai peur pour ma vie.
Des critiques qui ont largement dépassé la gauche ?
Tout à fait, hein, si certains ont accusé Jean-Luc Mélenchon de diversion après ses propos jugés complotistes, d'autres sont venus à son secours, comme le marcheur Sacha Houlier qui déplore des propos extrêmement graves qui tombent sous le coup de la loi. Position partagée par beaucoup d'internautes comme Loïc. Qu'on soit d'accord ou pas avec Mélenchon, le fait de simuler des exécutions type Daesh, ça ne passe pas. Le chef de file des Insoumis qui a annoncé hein, qu'il allait porter plainte, il a également signalé la vidéo sur la plateforme Pharos. Hier soir, elle n'était plus visible sur YouTube.
Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup Martin Lange. Merci les Naïcs, à tout à l'heure. À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Aujourd'hui, mon père amoureux, entre guillemets, d'une fille de 8 ans. À l'été 1961, André Berthaud, 38 ans, tombe donc amoureux, soi-disant, de Louise, 8 ans, sur une plage de Vendée. À les vacances finies, la fillette lui manque, alors il l'enlève avec la complicité de Daniel, sa fille, qu'il martyrise. Le récit de cette histoire dans On de la Traconte à 14h, c'est à télécharger dès maintenant sur europe1.fr. Dans un instant, notre planète, on file retrouver Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
À 5h54, il est l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur le potentiel des algues en cette journée mondiale des océans. Même l'ONU se penche aujourd'hui sur leur potentiel écologique assez énorme.
Oui, le potentiel des 11 000 espèces qui existent a inspiré l'ONU, des institutions scientifiques et des entreprises à fonder la Safe Seaweed Coalition en mars 2021. Une initiative occidentale qui vient longtemps après la pratique de l'algoculture en Asie, car au Japon et en Corée, cela fait plus de 60 ans qu'on cultive les algues sur des supports flottants. Or, depuis 20 ans, l'algoculture s'accroît au rythme annuel de presque 10% par an pour atteindre aujourd'hui un quart du volume produit par les pratiques aquacoles.
Mais au Japon et en Corée, on les cultive surtout pour un usage alimentaire. Alors pourquoi cet intérêt soudain pour les macro-algues ?
Alors, les macro-algues, qui sont les grandes algues ou les algues géantes, elles peuvent servir d'engrais pour l'agriculture, mais aussi absorber les nutriments déversés dans l'eau par l'agriculture intensive, tout comme le carbone qu'elles arrivent à capter et qui est une aide formidable dans la lutte contre le changement climatique. Elles produisent en prime de l'oxygène. Ajoutons à cela que les champs d'algues amortissent les vagues et diminuent l'érosion du littoral, mais ce n'est pas tout. Elles offrent aussi le refuge, le couvert et le berceau aux autres organismes aquatiques. Elles ont aussi de riches propriétés nutritives pour les humains et les animaux. Et enfin, dernière propriété sûrement la plus précieuse, leurs molécules sont aujourd'hui étudiées car elles pourraient nous permettre de sortir du plastique.
Pour autant, Fanny, il y a un risque que l'algoculture reproduise finalement les mêmes travers que ceux de l'agriculture.
Et oui, le premier d'entre eux étant la monoculture. L'occupation de gigantesques espaces par quelques espèces d'algues ultra productives serait un désastre pour la biodiversité marine à cause de leur vitesse de croissance, mais aussi à cause des parasites qu'elles peuvent porter. L'importation de l'algue wakame en Europe dans les années 80 a par exemple conduit à une hécatombe de la biodiversité locale. Et nous n'avons toujours pas d'idée précise de l'impact écologique global du déploiement de ces grandes cultures d'algues. Tous ces paramètres doivent être étudiés avant de se lancer, mais les contours légaux de précautions à prendre sont d'autant plus flous que l'océan n'appartient à personne, contrairement à la terre ferme.
Ah oui, merci Fanny Agostini, on vous retrouve demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce mardi 8 juin et J-1 pour les patrons de bars et restaurants avant de pouvoir à nouveau accueillir les clients en salle et passer en jauge complète sur les terrasses. Emmanuel Macron à leur rencontre aujourd'hui dans la Drôme. On fait le point à 6h40 sur les derniers préparatifs, sur le bilan aussi de la réouverture partielle des terrasses depuis 3 semaines et sur le montant des aides qui commence déjà à baisser. Marcel Bénézet du Groupement National des Indépendants sera mon invité dans 40 minutes. À 6h20, l'inattendu, qui de mieux qu'un ancien ministre des Finances pour parler monnaies anciennes et de cette vente aux enchères à New York où une pièce d'or des années 30 pourrait battre des records. Jusqu'à 7h, votre revue de presse internationale 100% Amérique. Aujourd'hui, on sera au Canada, aux États-Unis et au Pérou. Et puis comme chaque matin, la musique avec Omblin Roche. Une histoire de famille. Ce matin, les tubes R&B des quatre sœurs des Pointer Sisters. Rendez-vous à 6h25 dans la partition. Mais avant cela, la météo, Laurent Cabrol.
Du beau temps, on va souvent appeler ça du beau temps nuageux, parce qu'il y a bien sûr des passages nuageux, mais ce sont des petites corolles naturelles qui viennent en forme d'ombrage, nous alléger un petit peu quand
un
on est sous le soleil.
Voilà.
Alors, en ce moment, entre Colmar et Strasbourg, nous avons des pluies parfois orageuses, et toute la journée, progressivement, dans cette partie de la France, le Rhône-Alsace, Franche-Comté, le relief alpin, la Corse, nous aurons là des averses et des orages. Comme hier, c'est exactement le même temps qu'hier. Et comme hier, nous avons sur la Manche des brouillards avec des visibilités de 100 à 200 mètres à Dinard, à Deauville, à Abbeville, et puis un peu plus dans les terres, à Amiens, à Alençon et Rennes. Dans toutes ces contrées, ce sont des petits brouillards éphémères, hein, bien sûr, qui vont se disperser assez rapidement. Voilà pour les quelques nuances. Partout ailleurs, ce sera du soleil et du grand soleil, notamment sur la capitale. Et puis d'ailleurs, vous allez voir les températures. Hein, 31 à Nîmes cet après-midi.
31 déjà, ouais.
Ouais, 29 à Bordeaux, 28 à Toulouse, 27 à Paris. Nous atteindrons 26 à Lyon, 25 à Amiens, et à Chavignolles, célèbre pour son crottin dans le Cher. 24 degrés à Nice et Clermont-Ferrand, Dijon, Nancy, Verdun, 23, 22 Quimper, 21 Cabourg, 19 Cherbourg. Je suis content de grainer des températures aussi agréables pour tous ceux qui nous écoutent, parce que ces températures sont vraiment supportables, sont des températures raisonnables, ce n'est pas le grand cagnard que nous aurons en fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine, il va faire très très chaud et au fur et à mesure, les températures vont grimper au fil des jours qui vont défiler et nous aurons fin de semaine vraiment très chaud. Je pense que la semaine prochaine, ce sera encore assez beau. Je pense qu'à la fin du pratiquement la fin de la quinzaine, ça ira très très bien.
Le beau temps et la chaleur qui perdurent. Merci beaucoup Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.